It was destroyed and then rebuilt by the Greeks, Romans, Byzantines, Arabs, Crusaders, and Mamelukes.
И что сидим с камерой? Вы что улыбаетесь? Здесь не до смеха.
It was destroyed again by Napoleon's army and again rebuilt by the Turks. Then came the British conquest and finally the Israelis.
И как мы этот вопрос будем сейчас решать?
What a history.
Radio Grenouille en direct du Festival international du documentaire, 17e édition, qui se tient depuis hier jusqu'à mardi prochain au palais du Pharo. Nous sommes ensemble pour une petite heure pour parler d'une rétrospective d'un cinéaste qui s'appelle Robert Morin, qui a fait des films tels que Ma vie, c'est pour le restant de mes jours, Même mort, il faut savoir s'organiser, Ma richesse a causé mes privations, c'est ça, mes privations. Gus est encore dans l'armée, toi t'es-tu Lucky, Tristesse, modèle réduit, Yasser, Madame. Voilà, tout des films dont on va parler avec Fabrice Montal, qui est programmateur de cinéma, critique également à Québec. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir.
Et Édouard Monet, artiste, directeur de vidéo chronique et programmateur également. Bonsoir Édouard.
Bonsoir.
Alors au micro orange, Xavier Thomas qui est allé voir un film, il nous en parlera, c'est Malerai Hoyt. Et au micro bleu, ça sera Camille Mesuré qui nous parlera de Hassan le fugitif ou Les vérités d'Hassan, un autre film. Hier soir, c'était la cérémonie d'ouverture avec un film VHS Kalusha. Est-ce que vous y étiez, Fabrice et Edouard?
Oui, on y était.
Oui.
Comment vous avez trouvé?
Ben, c'était un film...
Édouard, vas-y.
C'était un film qui était vraiment excellemment placé en soirée d'ouverture et qui, par ailleurs, était très intéressant, très drôle, à la fois très drôle, mais qui allait beaucoup plus loin que le simple comique ou la simple drôlerie. Donc c'était le parfait endroit pour la cérémonie d'ouverture.
Fabrice?
Je pense un peu la même chose, c'est-à-dire c'est un film qui nous donnait des données sociales après nous avoir aguiché, séduit avec un personnage tout à fait hors du commun qui fabrique des films maison à la fois pour abuser la galerie mais aussi on le voit pour amuser les gens de son village, de sa ville qui sont en exil en Italie, travailleurs immigrés, etc. C'est un film qui parle de beaucoup de choses, beaucoup plus que le simple sujet, la simple anecdote. Et c'est ce que j'ai aimé beaucoup. Oui.
Un film réalisé par Najib Belkadi, qu'on a entendu hier dans le magazine parler de Tarzan des Arabes. Il y a une énergie aussi dans ce film. Et je me disais, tiens, finalement, on est dans une énergie proche de celle qui peut être celle de Robert Morin. Non ? Vous ne trouvez pas ?
Oui, moi j'ai regardé un peu, je me suis un peu renseigné par la suite après avoir découvert ce cinéaste-là que je trouve assez talentueux. Puis un peu comme Robert, c'est-à-dire comme Robert Morin. C'est quelqu'un qui vient de la technique de base, c'est-à-dire il fait de la télé, il est caméraman d'abord et avant tout, donc on sent que c'est un peu comme chez Morin, c'est un film c'est un film de chasseur, c'est un gars qui chasse des images et qui chasse des humains.
Alors c'est la première rétrospective qui est organisée en France de Robert Morin?
Non, il y a eu, je ne pourrais pas remonter très très loin, mais il y a eu déjà en 1999 un ensemble d'œuvres, je ne sais pas si on peut appeler ça une rétrospective, qui avait été montrée au festival Banc de l'Image à Bourges. Et puis je crois qu'auparavant, il y avait eu quelque chose à Montbéliard.
Oui, à la fin des années 80, il y avait une première rétrospective organisée autour du CICV, autour de son œuvre à Montbéliard. Donc c'est quelqu'un qui a longtemps été programmé dans les festivals de vidéo, parce que son support de création, c'était la vidéo. Et comme c'était de la vidéo, ben les gens le programmaient en vidéo, mais ce n'était pas un vidéaste expérimental, c'est quelqu'un qui travaillait la narration de différentes façons. Et peu à peu, maintenant que les techniques évoluent, que les supports d'images se modifient, ben, les festivals de cinéma commencent à s'intéresser à son œuvre.
Et il se déplaçait à l'époque, parce que là, il n'est pas venu, et je crois savoir qu'il est dans le bois.
Oui, c'est Édouard qui a eu les derniers contacts avec lui. Édouard.
Effectivement, non, il a pas pu se déplacer, mais il a été extrêmement occupé cette année. Tu pourras le confirmer, Fabrice. Donc, je pense qu'il avait aussi besoin de beaucoup de repos et il lui fallait un petit peu arrêter de se déplacer et de seulement promouvoir son travail. Je pense qu'il faut aussi qu'il se remette au travail par ailleurs.
Oui, c'est-à-dire qu'il a sorti deux films en 6 mois. un vidéo qu'on va voir en première française, Petit Papa Noël, à la fin du festival, le 11, et un film long métrage avec comédien qui s'appelait Que Dieu bénisse l'Amérique, qui est l'histoire d'un tueur en série qui sévit sur une rue dans une banlieue de Montréal le 11 septembre 2001. Et c'est un film aussi qui est sorti donc au mois de février, donc il a dû faire énormément de PR, de presse, de médias. Il est passé à l'équivalent de l'émission d'Ardisson pour le Québec. Etc. Il est devenu tout à coup une personne très, très publique, beaucoup plus publique qu'à l'accoutumée, et ça l'a un peu retiré du travail d'écriture scénaristique. Et comme n'importe quel cinéaste au Québec, le cinéma étant très, très mal financé, ben c'est un peu partout pareil, mais au Québec, c'est criant par rapport aux performances au box-office. Et donc, un cinéaste comme Robert doit faire à peu près 4 projets de front pour en avoir un qui marche. Et donc, voilà, il y a un peu de cette raison-là. D'autre part, il avait décidé, lui, dans sa tête, que fin avril, il arrêterait complètement tout rapport public pour... il faut fabriquer des films, c'est ça, c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Et puis, c'est la première semaine de juillet, il fait beau au Québec aussi, et puis il a un chalet dans le nord, et voilà, il est dans le bois.
Il n'est pas si bourru que ça, alors ?
Non, pas du tout.
Ah, et ça veut dire quoi, en québécois, être dans le bois ? Ça veut dire être à la campagne ou à la chasse ?
À la campagne pour l'instant, parce que la chasse, c'est au moins c'est à l'automne, et effectivement, Robert Morin est un chasseur, un peu comme Pierre Perrault, son ancêtre, l'était aussi.
Alors c'est une rétrospective qui arrive au Festival international du documentaire par Vidéochronique. Vidéochronique qui s'intéresse à l'utilisation des technologies dans l'art. C'est pas un endroit où on pensait, par lequel on pensait que Robert Morin arriverait. Alors Edouard, est-ce que tu peux nous dire pourquoi Vidéochronique a proposé Robert Morin au FID ?
C'est-à-dire que ça vient, comme je l'ai expliqué dans le journal du FID, ça vient d'un malentendu, c'est-à-dire que la première fois que j'ai vu son travail, c'est par le biais d'une œuvre qui s'appelle Yes Sir Madame, et qui a beaucoup de points communs avec les autofilmages, qu'on appelle les autofilmages d'artistes, plasticiens ou d'artistes contemporains, et du coup je l'ai appréhendé comme ça. Puis ensuite je me suis beaucoup intéressé à son travail, ça m'a permis de réorienter et de resituer ce travail-là sur un autre champ que celui effectivement qui m'est familier. Mais en même temps, pour moi c'était très intéressant de le montrer, puisqu'il y a quand même toute une dimension plastique dans son travail. Donc ça, là aussi je pense que Fabrice pourrait développer un peu, mais c'est sur ce plan-là que c'est intéressant pour nous. Il est à la croisée, il est un peu en marge de ce que nous on fait, mais en même temps c'est intéressant de travailler aussi sur ces marges.
Et qu'est-ce qui t'a séduit toi exactement dans son cinéma ?
Des tas de choses, c'est la radicalité je pense essentiellement, de le côté très direct de sa manière d'appréhender les choses et de les donner à voir, quoi.
Fabrice, qu'est-ce qu'on pourrait dire les caractéristiques du cinéma de Robert Morin?
C'est un des cinémas au Québec les plus cruels, dans le sens d'Antonin Artaud. C'est quelqu'un qui ne prend pas de gants blancs pour montrer la violence, même des choses les plus banales. Et c'est quelqu'un qui aime l'imperfection, c'est un cinéaste de l'imperfection, qui revendique l'imperfection à la fois comme moyen et comme fin. C'est-à-dire que vous allez voir que ses sujets sont souvent des sujets d'imperfection ou d'exclusion aussi, qui mènent à l'exclusion. Et c'est quelque chose qui le fascine tout à fait. C'est quelqu'un aussi qui était fasciné par, pas nécessairement les trans, mais je pense que les drogues, les dépendances, les vices qui obsèdent tout un chacun. D'ailleurs, le programme qu'on va présenter ce soir, les 3 courts-métrages, traitent chacun à leur façon un peu de ça, que ce soit un avaleur de couteaux qui ne peut plus s'empêcher d'avaler des couteaux, ou une femme qui était enlevée par les Indiens Yanomami au Brésil et qui était confrontée à une séance de drogue, de rituel de drogue absolument. C'est une des séances de films anthropologiques les plus terribles que j'ai jamais vues de ma vie. Et pour ceux qui ont déjà sniffé de la coke, c'est quand même une thérapie de voir ça. Et c'est aussi un film sur les nains qui sont amoureux, qui sont sensiblement... qui ont des peines d'amour comme n'importe quel être humain.
Pas possible. Et comment les institutions qui financent le cinéma au Canada travaillent avec Robert ? Enfin, est-ce qu'ils travaillent avec Robert ?
Oui, il a déjà été subventionné en 78. Il avait reçu de l'argent pour faire un film qu'on a présenté dans le premier programme qui s'appelle « Ma vie, c'est pour le restant de mes jours ». Par la suite, après ce film, où il y a vraiment une orgie de village ou une séance de beuverie d'après-midi avec plusieurs centaines de bières consommées, se transforme en orgie à peine esquissée avec 2 danseurs, un danseur et une danseuse nus. Quand il a apporté ce film à l'Institut québécois du cinéma qu'il avait financé, il a été interdit de subvention pendant 2 ans jusqu'à ce que le fonctionnaire qu'il avait financé décide de changer de service. Et donc, c'était sa première expérience avec les subventions. C'est pas quelqu'un qui a été à la recherche de subventions pendant longtemps. C'est quelqu'un, au contraire, qui s'est organisé. Le titre que Édouard a donné au programme, Fais-le toi-même, c'est un peu symptomatique de sa position. À cet égard, il est un précurseur de ce qui s'est passé au Québec depuis 5 ans avec le mouvement Kino, qui sont vraiment des disciples de cet état d'esprit où on n'a plus besoin d'argent pour faire des films. L'important, c'est fais le bien, fais le mal, mais fais-le. Et donc, c'est des philosophies qui sont inspirées directement de la coop vidéo qui était fondée par Robert et ses amis à la fin des années 70, en dehors de toute association, en dehors de tout système gouvernemental, en dehors de toute subvention. Ils se sont seulement cotisés pour s'acheter un porte-tapas couleur, le premier peut-être au Québec, et avec ça, espèce de petite avancée technologique de quelques mois. Ils ont proposé des bandes dans les festivals et ça a commencé à rouler. Donc voilà, c'est un peu ça. Maintenant, il est subventionné, il fait des films de long métrage avec comédiens, donc il a plusieurs vies, hein, il a plusieurs personnalités, il a plusieurs styles. Et selon les styles, il s'adresse à tel ou tel office de subventionneur.
Et là, comment ça s'est passé, l'articulation entre pas subventionné, film un peu, descente aux enfers, et maintenant subvention, enfin, comment il y a eu une reconnaissance des institutions, elle s'est passée de quelle façon ?
Oui, c'est sûr que le problème, c'est qu'il fait vraiment pas du cinéma slick, là, comme on l'appelle, du cinéma poli, où c'est très rugueux comme travail, donc ça plaît pas à beaucoup de gens. Ça plaît pas à certains ténors de l'industrie, que ce soit du côté gouvernemental ou du côté, disons, commercial. C'est sûr qu'il voit d'une drôle de façon dans le paysage cinématographique québécois. C'est quelqu'un qui est un provocateur d'abord et avant tout. C'est quelqu'un qui aussi réfléchit à des nouvelles façons d'écrire des histoires. Alors quand on écrit des histoires de nouvelles façons, quand quelqu'un y réfléchit sur de nouvelles façons de créer des histoires dans un paysage où on nous dit qu'un film doit se faire en 3 temps, selon une norme hollywoodienne, qu'il n'y a qu'une seule façon de raconter des histoires au cinéma et voici les règles qu'on apprend à l'école, c'est sûr que ça dérange un petit peu.
Alors, qui dit Québec dit chanteur québécois, et je vous propose une première pause musicale avec Félix Leclerc, Robert Charlebois et Gilles Vigneault, Tant que les hommes vivront d'amour. Ailleurs.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère.
Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère.
Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. La sagesse ici-bas, c'est le prix.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, et nous serons mon frère.
Quand les hommes vivront d'amour,
écoutez Radio Grenouille, nous sommes en compagnie de Fabrice Montal, programmateur de cinéma au Québec, et d'Edouard Monet, directeur de vidéo chronique, artiste. Nous parlons de la rétrospective Robert Morin, Fais-le toi-même, qui a lieu depuis hier et jusqu'à mardi dans le cadre de la 17e édition du Festival international du documentaire. Nous allons écouter une petite interview de Pascal Messaoudi. Pascal Messaoudi qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, il enregistre une table ronde autour de l'écran parallèle toutes les nuits en 6 jours que vous pourrez écouter demain à partir de 19h10, juste après le flash de RFI. Et il a quand même rencontré Siem Bekodja qui était là dans la journée, qui a créé un festival de danse en Tunisie et un autre de documentaire. Elle est la première à avoir programmé VHS Kaloucha, le film qui a fait l'ouverture du festival hier et dont on a parlé régulièrement sur cette antenne. Rencontre avec cette femme qui lutte en Tunisie avec l'art.
Moi, je suis chorégraphe et danseuse. Et en faisant une vingtaine d'années de danse, j'ai créé les rencontres chorégraphiques de Carthage de danse. Une réponse après le 11 septembre. Mes danseurs devaient partir en France pour danser. Les services visa ont refusé 4 à 5 danseurs pour aller en France. Et j'avais très peur que ces jeunes qui ne pouvaient plus partir à l'ailleurs n'allaient plus voir l'ailleurs chez nous. Et ils pourront peut-être, avec des accidents de mass media qui nous viennent de l'Orient, basculer dans l'intégrisme ou dans l'obscurantisme. Ayant peur de ça, j'ai créé un festival de danse pour vraiment développer une conscience du corps et une liberté de ce corps que, en tous les cas, cette secte obscurantisme veut faire oublier. Ayant une école de cinéma depuis 12 ans, c'est la première école de cinéma en Tunisie, la réussite des rencontres chorégraphiques de Carthage pour cette liberté du corps et ce public est gratuit sur 5 théâtres m'a donné l'idée de faire un festival de documentaires pour aiguiser le regard, parce que les jeunes aussi ne regardent malheureusement que les télévisions qui formatent une information. Surtout, il y a beaucoup de malentendus sur les réalités du monde. Et en plus, avec les interdictions de visa, les gens ne savent pas du tout ce qui se passe ailleurs. Et ce n'est pas la télévision alimentaire qui va nous apprendre les couches et les interactions qu'il y a dans le monde.
Le malentendu, pardon, juste une précision. Vous parlez de malentendu, vous parlez aussi de censure et de manipulation des informations.
De toutes les informations occidentales et même orientales, parce que la télévision tunisienne, elle est un peu très limitée. Donc on n'est pas du tout dans une télévision qui analyse, il y a une seule chaîne de télévision. Le 11 septembre, il n'y avait que 2 chaînes coraniques et d'informations, qui sont le Jazeera et Iqra, qui sont vraiment une chaîne coranique où on prêche que pour le Coran. Et depuis maintenant 3 ans, il y a 24 chaînes coraniques, mais qui nous viennent de Hezbollah, des partis politiques. C'est bien beau tout ça s'ils parlent d'un islam que moi je connais, cet islam de tolérance, je veux bien. Je suis moi-même musulmane et pratiquante, mais je ne suis pas du tout prête à aller dans un volet qui ne me parle pas, que c'est pas l'islam que je connais. Et c'est vraiment c'est la danse qui m'a éveillée à ça, parce que je voyais quelques danseurs de ma compagnie, ils sont à peu près 1500 jeunes qui sont dans l'école, qui, même avec un bac plus de droit, soit tout d'un coup aller vers un hijab, porter le hijab. C'est un peu comme Tarak Ramadans que vous avez, mais nous on en a une centaine qui nous viennent de l'Orient, c'est même pas des Tunisiens. Donc c'est un véhicule d'un imaginaire islamique qui ne nous ressemble pas. Je répète encore une fois, je suis musulmane et fière de l'être. Et c'était pour moi assez essentiel de créer le festival de documentaires pour qu'il soit politique et social, sans que je prenne position ni pour l'un ni pour l'autre, mais montrer ce que l'Occident présente, ce que l'Orient présente. Et on a des débats pour voir où on en est dans cette tornade d'informations. J'ai mis la barre très haute, 75 films avec...
De tout pays.
De tout pays international, mais beaucoup plus sur les libertés des droits de l'homme. Une fenêtre sur le film tunisien où le FID a ouvert avec le film avec qui j'ai ouvert. Ce film-là n'était pas interdit en Tunisie. En fait, c'est des pays qu'on... C'est-à-dire, dans le Nord, on croit que c'est une dictature. C'est pas une dictature. C'est un pays où tu peux tout faire si tu oses le faire. Au fait, tu as l'impression que tu peux pas faire parce que c'est interdit. L'interdiction, elle est là. Sauf que ils mettent une chape de trucs quand on fait. Ils sont tellement surpris que ça les dépasse. Donc, pour Doka Tunis, c'était presque interdit parce qu'il fallait un visa d'exploitation que j'ai pas pris. les autorités doivent revoir voir tous les films que je passe, je ne leur ai pas donné. Et les films qu'il fallait qu'ils voient vraiment coûte que coûte, comme Vivratas Mamart qui parle de 18 ans de prison pour eux, ça pouvait poser un problème avec le Maroc de problèmes diplomatiques ou des choses comme ça. J'en ai fait des copies. Donc ils les ont gardées, mais j'en ai fait des copies. Donc au fait, Doc à Tunis, c'est-à-dire on ne m'a pas donné la liberté de le faire. Je l'ai fait, mais j'ai 43 ans, donc j'en ai fait beaucoup de choses avant. Les films qui voulaient être censurés, j'en ai fait une copie et je les ai passés. C'est pas une arrogance, je suis pas un héros, c'est ce que je n'aimerais pas dire. C'est mon travail dans mon pays. Si on n'est pas militant dans notre pays, la Tunisie peut basculer comme l'Iran en une fraction de seconde. Et c'est pas la faute d'un gouvernement, c'est un raz-de-marée de ces télévisions que pour moi, elles sont très dangereuses parce que c'est pas la télévision de notre peuple, elles nous viennent d'ailleurs. Elles véhiculent d'autres choses qui ne nous ressemblent pas. Et en tous les cas, moi, en tant qu'individu et citoyenne de Tunis, ma seule arme, c'est l'art. Ben, la danse, aujourd'hui, c'est le documentaire. Demain, ça sera autre chose qui fera aiguiser le regard, qui fera prendre conscience à ce Tunisien de son histoire et de sa richesse. Et que moi, je ne veux pas du tout ressembler aux Iraniens. Je veux ressembler à mon Carthage, à ma Jéziel Ahlaïa qui était juive, à mon Saint-Louis qui est venu à Tunis qui est chrétien, et à l'islam qui est venu en Tunisie. Cette masse humaine qui est adorable, ce bâtard de religion qui est la Tunisie et qui est génial.
C'était Siem Bekoja qui répondait aux questions de Pascal Messaoudi. Alors Fabrice Montal, on entendait parler de problèmes, de questions d'identité. Est-ce que on sait qu'au Québec aussi, les questions d'identité sont assez vives. Est-ce que Robert Morin s'est intéressé à ces questions? Enfin, est-ce qu'il a abordé cette question de l'identité québécoise?
Oui, il l'a abordé un peu par le flanc, avec des personnages qui sont en prise avec des problèmes d'identité. On pense notamment à son chef-d'œuvre qui s'appelle Yes Sir Madame, qui est l'histoire de Earl Tremblay, qui est de père francophone et de mère anglophone, et qui parle à moitié en français, à moitié en anglais, et qui, pour chaque phrase qu'il dit, il va nous raconter l'histoire de sa vie à moitié en français, à moitié en anglais. Et ça va jusqu'au moment où la moitié française de lui va tuer la moitié anglaise pour se transformer en grenouille, littéralement dans un lac, à la fin du film. Et c'est un film très, très, très puissant qui est fait avec une seule caméra, fait par un seul individu, qui est Robert Morin, qui l'a filmé souvent au risque, pas nécessairement de sa vie, mais de sa peau, parce qu'il a des fois, il a vraiment été, on le voit dans des situations, par exemple dans des congrès politiques, où il s'est déguisé en faux député, il s'est vraiment déguisé en faux député dans un vrai congrès politique, il s'est vraiment fait casser la gueule par les gardes du corps, et ça c'est ce qu'on appelle tourner de façon risquée. C'est sûr que c'est un disciple de Herzog là-dessus, là. Herzog a une énorme influence sur l'attitude du cinéaste. Herzog a eu une énorme influence sur le cinéaste Robert Morin.
Dans le sens de l'aventure du risque, quoi.
Oui, c'est ça, absolument. Et même dans les tissus sociaux qu'il explore, c'est pas des choses banales, c'est jamais banal. À vrai dire, c'est jamais banal.
C'est un travail qui a commencé quand, le travail de Robert Morin au cinéma?
Ça a commencé à la fin des années 70. Donc, c'est quelqu'un qui était formé en art plastique, mais surtout en communication, en photo. Donc, c'est quelqu'un qui a bourlingué pas mal. Il adore l'Amérique du Sud, la littérature sud-américaine. Il a fait beaucoup de photos, mais il gagnait sa vie comme caméraman. Donc, pendant à peu près une dizaine d'années, il a fait de la caméra pour la télévision, pour l'Office national du film. C'était vraiment un baroudeur de la caméra à l'épaule. Et un jour, il a, avec justement des chutes de films, d'un film de commande pour l'armée canadienne qu'il avait récupéré, des fan bobines, ce qu'il appelait des fan bobines, c'est-à-dire après avoir tourné les thèmes officiels, bon, il s'amusait à tourner des choses, des niaiseries comme il dit, des trucs, des conneries. Hein. Et avec ces conneries, ben, il a monté ça, il a commencé à écrire une histoire et c'est devenu son premier film d'auteur, Gus est encore dans l'armée, qu'on a présenté hier dans le premier programme. Et voilà, ça a commencé comme ça. Ensuite, il s'est intéressé aux vies excentriques. Il a fait ce qu'on appelle des tapes existentielles, ce qu'il appelle lui des tapes existentielles, où il rentre dans la vie des gens, non pas d'une manière documentaire, mais par le fait qu'il écrirait des fictions avec ces gens-là. Donc, il a commencé à écrire des fictions où les gens racontent leur vie, mais ils racontent les choses les plus hautes qui leur arrivent. Et c'est comme ça qu'il rentre d'une façon beaucoup plus intime, beaucoup plus profonde dans la réalité quotidienne de ces gens-là. Alors, je parlais tout à l'heure d'un avaleur de couteau, on parle d'un culturiste dans certains films, des nains qui ont des peines d'amour, dont les familles sont des clowns, mais lui, il ne veut pas être clown parce qu'il y en a ras-le-bol d'être clown, parce que les nains sont toujours déguisés en clowns. Puis lui, Chris, il veut pas ça. Donc, c'est ça.
Donc, il est curieux, mais il est voyeuriste aussi.
Il est voyeuriste, mais en même temps, c'est sûr que la première fois qu'on voit ces films-là, on a l'impression que c'est condescendant, que c'est voyeuriste, c'est manque de respect. Mais c'est pas vrai du tout. C'est quelqu'un qui ne peut pas faire ses films sans rentrer en communication très profonde avec ces gens-là, en les respectant énormément, en les aimant carrément. Comme il a fait dans ce qu'on va présenter en programme 3, La Réception. Alors, il a pris le pattern scénaristique des Dix Petits Nègres d'Agatha Christie. Et il a mis des gens dans une maison au cœur d'une île, en banlieue de Montréal, dans le fleuve, tempête de neige, les gens ne peuvent plus sortir. Et puis chaque fois que quelqu'un meurt, il y a une petite grenouille, symbole du Canadien français, une grenouille en porcelaine qui apparaît au-dessus de la cheminée. Mais tous les comédiens, c'est des ex-détenus, c'est des gens qui ça faisait même pas 6 mois qu'ils étaient sortis de prison. Donc ça crée comme une dynamique spéciale parce que ce sont tous des personnages qui jouent des ex-détenus pris ensemble dans une maison, mais ce sont vraiment des ex-détenus qui sont là en train de jouer le rôle d'ex-détenus. Donc ça crée une sorte de mise en abysse absolument fascinante qui crée une sorte de véracité dans ce que les gens disent, de la façon dont ils bougent, dans leur gestuelle, etc. Il va faire la même chose plusieurs années plus tard avec des junkies dans une piquerie qui s'est fait attaquer par la police, des junkies encerclés par la police dans Quiconque meurt meurt à douleur. Et là, c'est encore plus fort. C'est un film qui a une puissance incroyable. Et c'est des vrais junkies, c'est des gens qui se piquaient littéralement 2 semaines avant le début du tournage, qui ont arrêté pendant 1 mois, puis certains ont recommencé, certains même sont morts après. Et ça crée une force d'évocation absolument fulgurante.
Alors, c'est un littéraire, ce Robert Morin, parce que « Quiconque meurt, meurt à douleur », c'est du François Villon.
Oui, c'est une phrase qu'il a prise à François Villon, absolument. Donc, oui, c'est un littéraire, c'est quelqu'un qui lit énormément et qui se défend, Édouard pourrait en témoigner, qui se défend d'être intellectuel. Mais il suffit qu'on le voit, qu'on l'écoute 2 minutes expliquer ses œuvres pour comprendre que ce gars-là, c'est pas le bum ou le voyou qu'il prétend être. Ouais.
Je crois qu'il y a eu quelque chose de déterminant dans son parcours de cinéaste, c'est la fondation de la Coop Vidéo.
Oui, la Coop Vidéo était fondée donc à la fin des années 70 par ces groupes d'amis-là, dont Lorraine Dufour, qui est sa principale... disons, on peut l'appeler co-réalisatrice pendant les années 80, qui est surtout monteuse. Robert réalisait, il y a Jean-Pierre Saint-Louis qui était caméraman, Marcel Chouinard preneur de son, c'est un peu l'équipe, le noyau de base de cette coop-là. Et donc l'idée c'était de filmer à tout prix. Donc on filme, on fabrique des œuvres. La majorité des œuvres ont été conçues par Robert, parce qu'on s'est rendu compte dans ce travail, disons, collectif, que celui qui avait le plus de talent pour inventer des histoires, c'était lui. Lorraine, c'était celle qui avait le plus de talent pour monter. Jean-Pierre, c'était le meilleur à la caméra. Et Marcel, c'était le meilleur au preneur de son. Mais toutes leurs premières œuvres, de façon un peu idéaliste, utopique, mais typique de ces années-là, sont signées par tout le monde, même les comédiens là-dedans. C'est un film de... Donc, il y a tout le générique, on ne sait pas qui a fait quoi. C'est donc, on pourrait faire le lien d'ailleurs avec les subventions. Je pense que c'est les subventions qui vont obliger la spécialisation des titres. Et tout à coup, bon, on va voir apparaître le nom de Robert Morin, réalisateur, Lorraine Dufour, monteuse. Et Lorraine Dufour est aussi productrice. Et en ayant produit les premières bandes de Robert, elle a peu à peu appris ce métier-là. Elle est devenue maintenant une des plus importantes productrices du cinéma au Québec parce que via la coop, il y a des jeunes cinéastes qui ont émergé comme Denis Chouinard, Louis Bélanger, Bernard Aymon, qui sont tous des gens qui sont arrivés après, dans les années, fin des années 80, début 90, et qui sont toujours à la coop et qui font de la coop une des entités créatrices les plus intéressantes au Québec en ce moment.
Ils ont été vraiment marqués par enfin, on a l'impression que par l'esprit des années 70, quoi, fonctionnement en bande. On imagine une bande de défoncés qui vont voir les gens dans la marge. Enfin,
absolument, c'est exactement ça. Donc, une fascination pour la marge et ça pour les exclus. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le premier film portait sur les pauvres, après ça, etc. Mais en même temps, c'est sûr qu'il y avait un discours politique, mais pas. C'est sûr qu'il y avait un souci politique comme beaucoup de gens à cette époque-là, mais sans, comment dirais-je, sans militantisme. L'idée, c'était de créer quelque chose d'accessible, de créer un spectacle entre le populaire et l'expérimental. Il y a un critique au Québec, Pierre Véronneau, qui décrit Robert comme un, c'est ça, il est à la fois populaire et expérimental, ce qui est un, tout à fait un travail tout à fait particulier. Et c'est quelqu'un qui est aussi une sorte d'explorateur de la fibre, de la culture populaire, de western, des gens, des petites fêtes foraines, c'est des choses qui existent partout dans tous les pays du monde, des choses qu'on appelle quétaine ou goût de concierge, je sais pas, peu importe que le mot qu'on utilise dans le pays dans lequel on est. Mais le mauvais goût est universel. Mais dans le mauvais goût, il y a une culture fondamentale et c'est ce qu'il a exploré aussi.
En fait, lui, ce qu'il cherche à donner, c'est une dimension politique au divertissement, c'est ça?
Oui, probablement. Mais en même temps, en ne croyant pas que le cinéma peut changer le monde. Ça, il est certain que l'art ne peut pas changer le monde.
Et vous en pensez quoi, vous?
Je pense que plus je vieillis, plus je pense qu'il a raison.
Édouard, tu veux parler de cette question?
Non, j'ai pas de... Il faudrait que j'y réfléchisse quand même.
Bon, alors, j'ai demandé à Xavier d'en parler, parce qu'il se trouve qu'il est allé voir un film qui s'appelle Malerei heute, donc peindre aujourd'hui. Et ce sont un ou deux réalisateurs allemands, j'ai plus ça très clair en tête, mais en tout cas, pour eux, il s'agit de parler, de continuer à faire de la politique à travers l'aquarelle.
Malerei heute, effectivement, un film d'un réalisateur et une réalisatrice, en l'occurrence Stefan Hein et Anja-Christine Remmert. C'est un film qui date de 2005. Malerei heute, la peinture aujourd'hui, c'est, et c'est le moins qu'on puisse dire, original. Si tant est que le cinéma se définit par le mouvement, voici du cinéma constitué exclusivement de plans fixes. Si tant est que le cinéma utilise une succession d'images photographiques, ce film est constitué de peintures, plus précisément d'aquarelles, effectivement. 150 plans fixes successifs sur 150 aquarelles représentant 150 panneaux publicitaires à Berlin de 1998 à 2003. On suit ainsi l'évolution de la communication de masse et du marketing, reflétant l'évolution politique au tournant entre le gouvernement Kohl et celui de Schröder. Reflet, réflexion, mise en miroir, en abîme, de l'image et du réel, de l'instantané et de la lenteur, du regard et de la main du peintre sur la ville. Un film, donc, vous l'aurez compris, plutôt réfléchi. Réfléchi, mais pas complexe, ni alambiqué. Le principe, au fond, est plutôt simple, sa mise en œuvre l'est tout autant. On peut même discerner chez les auteurs de ce film une volonté d'être vraiment premier degré, factuel, mais avec quand même cette particularité de s'appuyer sur la représentation plutôt que sur la réalité elle-même. Simple, enfin, n'allez pas imaginer que Malerei heute est un film amusant à mater entre potes à l'heure de l'apéro. On n'est pas vraiment dans ce registre-là, dans le burlesque ni dans la gaudriole, ça c'est certain. En même temps, j'ai plutôt apprécié la radicalité de la démarche à défaut de son absolue pertinence. Signalons aussi une musique originale plutôt plaisante, enfin, entendons-nous, là non plus, on n'est pas vraiment dans l'easy listening, une musique en tout cas signée Klaus Barm et qui justifie que le film soit en compétition pour le prix son, il l'est d'ailleurs aussi dans le cadre de la compétition internationale. En conclusion, on peut dire que c'est un film qui a une démarche véritablement singulière pour rendre compte des changements intervenus dans la société allemande juste après la réunification des deux Allemagnes et au tournant de ce changement d'orientation qui conduit aujourd'hui l'Allemagne vers une politique plutôt libérale. Une démarche singulière, mais encore une fois au fond assez classique, concrète, référencée, particulièrement par exemple à la peinture de Paul Cézanne, et juste, à défaut d'être drôle. Si vous ne pouvez pas voir l'histoire contemporaine en peinture, essayez Malerei heute, qui sait, ça peut vous réconcilier avec le sujet.
Merci Xavier. On va faire un interlude musical. Alors rassurez-vous, ce ne sont pas de nouveau des chanteurs québécois. Ce sont les Venetian Snares, ça s'appelle Fuck Off.
Please make some noise. Brand new tunes, we got a bag full of new dubplates. New tunes, white labels, you haven't heard none of this. Yeah.
finalement, les chanteurs québécois étaient là, ils insistent. Bon, on va parler de musique alors et de son. Fabrice Montal, la musique et le son chez Robert Morin, comment il travaille ça?
C'est un musicien, Robert, c'est un guitariste, il aime le blues, le rock, c'est un gars de... Mais la musique est jamais... Il y a rarement des musiques rajoutées dans ses films. Bien avant Dogma 95, il faisait déjà de la musique de circonstance. C'est-à-dire que s'il y a une circonstance qui s'y prête dans son film, et dans la majeure partie de ses films, il n'y a aucune musique. Sinon des musiques d'atmosphère, des trucs qui passent à la radio, ou des trucs qui commentent une action, mais selon un média, ou la télévision, ou la radio. Il n'y a pas de musique d'enrobage, il n'y a pas de musique qui est là pour embellir ce qui est montré, jamais. Il y a juste dans Quiconque meurt, meurt à douleur, où il y a une musique de générique. Sinon, dans certains de ces longs métrages de films, là, il y a un peu de musique, mais jamais de façon très très appuyée ni très complaisante en tout cas.
Ça l'intéresse pas de travailler sur le son ?
Le travail de son, c'est le travail de la prise de son, mais il n'y a pas de travail, il n'y a pas de modification, de mutation du son. Il y a le son de la scène telle qu'elle est prise. Ouais. Mais ça fait partie de tout son travail de véracité, à vrai dire, parce que Robert a travaillé beaucoup sur la justification de l'existence de la caméra vidéo dans l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire qu'on est en train de voir, la caméra vidéo, dans la plupart de ses bandes, est justifiée. Et il a inventé ça bien avant, c'est arrivé près de chez vous, bien avant Blair Witch Project. Il fait ça depuis le début des années 80. Et pour moi, c'est un précurseur qui a, quelque part, décidé de jamais... faire en sorte que la caméra soit extérieure à l'histoire qu'on nous raconte, qu'il y a toujours un personnage qui est là en train de filmer et qui existe dans l'action avec les gens qu'on voit être filmés. Et c'est plus qu'une caméra subjective, c'est vraiment une caméra narrative, mais qui est toujours justifiée dans l'action. Et ça crée une confusion chez le spectateur, surtout dans ces années-là, 80-90. Peut-être maintenant, les gens sont plus habitués, on voit plus de choses comme ça. Mais dans ces années-là, il y avait vraiment des gens qui sortaient « Qu'est-ce que j'ai vu là ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Est-ce que j'ai vu un documentaire ? Est-ce que j'ai vu quelque chose de vrai ? Est-ce que... » Et bon, et donc le son est important là-dedans. Si tu commences à rajouter de la musique par derrière, ça marche plus. Tu coupes ton système de ton stratagème, ton stratagème et ta sauvagerie.
Alors, en quoi cette ambiguïté sur, on ne sait pas si on est dans le documentaire ou la fiction est intéressante, parce que ça fait longtemps qu'on sait qu'on est, peu importe documentaire, fiction, on est dans le cinéma. Il s'agit de cinéma et puis voilà quoi. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette ambiguïté?
Bah, tout simplement, comme je viens de le dire, c'est un stratagème de captation du spectateur. C'est-à-dire que pour lui, c'est juste un jeu narratif pour asseoir une véracité d'une histoire complètement fausse. Donc c'est un jeu de compteur, quelque part, d'un gars qui a une caméra, qui a une perche, qui a un système, qui a une Betacam SP sur l'épaule, et qui invente avec des comédiens les plus amateurs, les plus anonymes possibles, des histoires complètement, parfois farfelues, à la limite du fantastique, parce que le réel, quand il est parfois poussé à l'extrême, est presque fantastique.
Édouard m'a fait les gros yeux, mais je voulais dire par là que c'est fabriqué. On sait que c'est fabriqué, le cinéma, tu vois ce que je veux dire. C'est, alors après, que ça soit réel ou pas, de toute façon, c'est du produit fabriqué.
Oui, mais là, enfin, j'ai pas fait les gros yeux, hein, c'est juste
c'est
une réaction naturelle. Mais là, il y a une recherche d'efficacité à un moment donné, l'efficacité de la manière dont ce travail-là va être perçu par le regardeur. Donc c'est vraiment cette ambiguïté.
Ça peut créer du trouble, quoi.
Voilà. Mais pour lui, c'est essentiel.
Et le trouble peut amener à se poser des questions, etc. etc. Combien de films dans cette rétrospective au festival du documentaire?
12 films. 12
vous n'avez pas compté?
12 films. Non, je ne les ai pas comptés.
Alors, je sais, en tout cas, qu'il y a une séance par jour. Comment vous avez construit vos séances?
Sont construites de façon chronologique. Donc, la première séance, c'était les trois œuvres fondatrices des trois courants. Les trois courants étant Robert Morin, le double et son même. Donc une série de films où il s'est tourné lui-même, où il est narrateur. C'est souvent des films qui sont faits avec des chutes de Super 8 qui sont après ça remontées en vidéo. Donc il y a trois œuvres pour l'instant dans ce courant-là qui s'appellent Gus est encore dans l'armée, Le voleur vit en enfer et Yasso Madame, ces deux dernières bandes étant tout à fait fabuleuses. un deuxième courant qui pourrait s'appeler les tapes existentielles, donc qui vont être représentés par le premier qui s'appelait Ma vie, c'est pour le restant de mes jours, le programme numéro 2 d'aujourd'hui qui est vraiment les esquisses de base avant les grands longs métrages, donc trois courts métrages, Le mystérieux Paul, La femme étrangère et puis Toi, t'es-tu lucky? Donc, c'est le programme d'aujourd'hui et qui va être continué demain avec La réception, dont on parlait tout à l'heure, les dix petits nègres avec les ex-détenus. Et ensuite, l'apothéose, les deux apothéoses, c'est Quiconque murmure à douleur, des junkies, et le dernier, qui va être présenté en première française, qui est un peu la rencontre des deux courants dont on vient de parler, qui est Petit Papa Noël, qui est un film qu'il a mis 2 ans à faire avec son propre père sur son lit de mort. Ils ont construit une fiction ensemble, d'un fils qui vient tuer son père et le torturer, surtout pendant de longs mois. Et son père est en train de mourir du cancer. Il a vraiment fait ce film avec son père. Son père s'est prêté au jeu. Maintenant, son père est décédé. Et ça va très, très loin dans le ressentiment père-fils. Si vous n'aimez pas les films père-fils, ce film-là est pour vous. rien ne nous est épargné sur la condition d'être aussi des gens qui sont condamnés à être sur des lits d'hôpitaux en attendant leur mort. C'est vraiment un film qui va très, très loin. En même temps, c'est une grosse farce. Mais en même temps, c'est un film qui dénonce énormément. C'est un film plein de ressentiments. C'est peut-être son film le plein d'amertume aussi. Puis en même temps, c'est son film, un des films les plus forts qu'il ait fait. Et donc, c'est la rencontre des deux parce que c'est un film très, très personnel, un peu dans la lignée des films où il se mettait lui-même en scène. Parce qu'il est là, toujours en voix off, etc., derrière la caméra, il parle dans la caméra, mais en même temps, c'est un film qu'il a fait avec un amateur. Dans ce cas-là, c'est son propre père sur son lit de mort. C'est vraiment un film extrême.
Et le troisième courant ?
Et le troisième courant ?
Et le troisième courant, c'est des films avec des comédiens professionnels et qui sont en cinémascope. On a présenté juste un vidéo ici qui s'appelait « Quelques instants avant le nouvel an ». Sinon, ce sont des longs-métrages de cinéma qu'on présente en salle, dans les cinéplex au Québec, mais qui n'ont pas été présentés ici, parce que ce ne sont que des fictions à ce moment-là.
Et d'ailleurs, juste un mot, la relation à Vidéochronique, elle est là aussi, c'est-à-dire que Vidéochronique, sa mission est liée à un support bien particulier, et c'est pour ça qu'on a choisi, sur la rétrospective Morin, de se focaliser sur son œuvre vidéo.
C'est ça qu'il appelle des vues. J'ai pas compris ce qu'il appelait des vues.
C'est très simple. Les vues, c'est comme ça qu'on appelait le cinéma pendant les 3 ou 4 premières années du cinéma, même en France, quand les frères Lumière présentaient, c'était des vues cinématographiques. Donc quand les frères Lumière sont arrivés en 1896, 6 mois après la première projection à Paris, ils sont arrivés à Québec et à Montréal, ils ont présenté les vues. Après ça, ils sont repartis. Mais au Québec, on a continué à dire des vues. Tout simplement. En France, l'expression a disparu, mais c'est resté au Québec. Et des vues, c'est des films, tout simplement.
Alors, est-ce que les trois axes dont vous avez parlé, c'est trois aspects de son travail qui se faisaient en même temps, ou c'est l'évolution de son travail
qui... Non, c'est trois travaux qui sont pas nécessairement synchroniques, mais il passe de... Comme cette année, il a sorti Petit Papa Noël au mois d'octobre, et au mois de février, il a sorti Que Dieu bénisse l'Amérique, qui est un film de fiction Panavision, caméra 35 mm, comédien professionnel, etc. Donc voilà, ce sont deux films complètement différents dans leur travail, dans leur traitement, dans leur manière d'être tourné. Mais ce sont deux films, deux projets qu'il a menés de front pendant 2 ans. Donc il passe d'une manière à l'autre constamment depuis une dizaine d'années maintenant.
Alors Camille, est-ce qu'on t'a donné envie d'aller voir des films de Robert Morin ?
Moi, j'en ai vu hier. Ouais. J'ai vu la première partie de la rétrospective avec effectivement le dernier instant avant le nouvel an et Ma vie pour le restant de mes jours. Moi, ça m'a beaucoup fait rire, effectivement. Je vais dire un truc pas très sympa, mais moi, je suis pas très très cliente de ce genre de documentaire parce que moi, j'aime bien justement les documentaires dont je vais parler plus tard, les documentaires bien ancré dans le réel et qui ne partent pas du tout en vrille et très sérieux. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas du tout le genre de public à interroger sur...
Alors, est-ce que Le Fugitif ou Les Vérités d'Hassan, c'est le documentaire sérieux dont tu rêvais pour cette 17e
édition ? Je ne sais pas si j'en rêvais, mais effectivement, ouais, pour moi, ça a été la bonne surprise du jour. Parce que il faut savoir que c'est un docu qui nous fait repartir 25 ans en arrière, au moment de la crise iranienne. Pour bien comprendre l'histoire de David Belfield, le sujet principal de ce documentaire, il faut juste faire un petit rappel de l'histoire. Donc, janvier 79 en Iran, la révolution éclate. Le Shah au pouvoir est renversé et c'est l'ayatollah Khomeini qui prend sa place. Voilà. Et donc, en 79, le Shah, qui est en fuite, est hospitalisé aux États-Unis. Ça ne fait pas du tout plaisir aux Iraniens qui considèrent que c'est la trahison ultime. Et il demande son retour au pays et son jugement. Et pour faire pression sur les États-Unis, il y a des étudiants iraniens qui, en novembre 1979, prennent d'assaut l'ambassade iranienne à Téhéran, l'ambassade américaine pardon, à Téhéran, et ils vont prendre une soixantaine de personnes en otage. Donc à ce moment-là, Carter, qui est président des États-Unis, va essayer de négocier avec Khomeini, mais ça ne se passe pas bien du tout, les choses ne bougent pas. Donc on en est là, le décor est planté et c'est à ce moment-là qu'entre en scène notre fugitif David Belfield. On est en été 80, la situation n'a toujours pas bougé, les otages sont toujours otages, Khomeini et Carter toujours sur leurs positions respectives et David Belfield est à ce moment-là un étudiant très très impliqué dans plein de mouvements politiques et surtout la défense des Noirs américains et comme il est musulman converti, il adhère aussi à la révolution islamique iranienne. Donc voilà, il se retrouve avec une mission un peu particulière. Tuer Ali Akbar Tabatabai, qui est l'ancien attaché de presse du Shah et qui est soupçonné de fomenter un coup d'État contre Khomeini en Iran. Donc Belfield accomplit sa mission, il descend de 3 balles proprement. Il est rapidement
identifié. Comme tu aimes.
Voilà, comme j'aime. Il est rapidement identifié, mais bizarrement, personne n'arrive à l'attraper. Il se fait la malle et il parvient à rejoindre l'Iran sans que la police américaine ait pu mettre la main dessus. Donc voilà, c'est le point de départ du travail d'investigation de ce docu en fait. Pourquoi il a réussi son coup sans être attrapé et pourquoi du coup on l'a toujours pas extradé, pourquoi il a pas été jugé parce que bon, ils ont quand même réussi à extrader pas mal de gens avant lui quoi. Et donc pour tenter d'expliquer cette espèce de bizarrerie, on retrouve en fil rouge les analyses d'un journaliste qui est spécialisé dans les services secrets américains et le témoignage de l'ancien conseiller pour la sécurité du président Carter. Donc voilà, on apprend pas mal de choses en les écoutant et on comprend que David Belfield, notre fugitif en l'occurrence, a été utilisé mais 2 fois, sans le savoir. Une première fois par les services secrets iraniens, bon ça il le savait, il était coopérant, mais une deuxième fois par les États-Unis qui, eux, manipulaient l'Iran sans qu'il le sache. Donc en fait, le pauvre gars, il a été pantin d'un pantin, si on peut dire ça comme ça. Et donc voilà, il y a 2 thèses qui s'affrontent pour expliquer comment ça s'est passé. Donc soit c'est les États-Unis qui l'auraient laissé s'enfuir après son crime en espérant que ça faciliterait les négociations pour libérer leurs otages, genre on laisse partir votre fugitif mais rendez-nous nos otages, soit la manipulation viendrait de Reagan. Parce que, rappelez-vous, en 80, c'est la campagne présidentielle, Reagan contre Carter, Carter sortant, Reagan qui veut bien prendre sa place, et donc Reagan aurait magouillé avec l'Iran pour retarder la libération des otages, et ainsi faire passer Carter pour un gros nul. Donc voilà, fait marquant, on pourrait dire, qui pourrait, on va dire, confirmer cette hypothèse. La libération des otages a été annoncée le 20 janvier 80, c'est le même jour que le discours d'investiture de Reagan, qu'on prenne qui pourra ou qui voudra. Voilà. De toute façon, dans les 2 cas de figure, on voit bien que Belfield et Tabatabai, bon, ben, ils ont été sacrifiés tous les deux. Bon, Tabatabai, certes, un peu plus parce qu'il est mort, mais bon, quand on voit Belfield qui est planqué depuis 20 ans en Iran, sans possibilité de sortir, qui évoque la solitude, de la dépression et des envies de suicide, on se demande qui a eu la meilleure vie, je ne sais pas. Donc voilà, le documentaire commence par une phrase de Spinoza qui dit « Ni rire, ni pleurer, comprendre ». Je pense que c'est un peu ce qui fait la force de ce docu. En fait, c'est y a beaucoup de travail au niveau de la recherche, mais il y a aussi beaucoup de travail sur la vie de Belfield. On comprend qu'il est complètement coincé, qu'il s'en sortira jamais. Et donc voilà, c'est une condition qu'il assume, mais qu'il aura payé très très cher. Cela dit, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas pleurer ni rire, mais comprendre. Alors si vous aussi vous aimez les documentaires pour comprendre, je vous conseille d'aller voir ce film qui s'appelle donc Le Fugitif ou Les Vérités d'Hassan. On rappelle qu'il concourt pour la compétition internationale et que c'est aussi une première internationale. Ce sera programmé demain à 19h15 et dimanche à 11h au Palais du Pharo. Voilà.
Merci Camille. Il y a Edouard qui veut dire un mot.
Oui, non, c'est vrai que ça serait très très difficile de décrire les films de Robert de cette manière-là.
Voilà.
Ouais, surtout que là, on parle de notre gouverneur général du Canada qui a réalisé ce film. Jean-Daniel Lafont étant le mari de la représentante de la reine d'Angleterre au Canada.
C'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui.
Ouais. Oui, c'est probablement.
Et une réflexion, enfin, on a vraiment l'impression que la politique étrangère des États-Unis est infiniment plus délirante que le cinéma de Morin.
Oui, c'est aussi c'est beaucoup plus schizophrène.
On peut peut-être dire juste, Camille, pour ceux qui aimeraient voir ce documentaire, est-ce qu'il repasse ?
Oui, bah, programmé demain à 19h15 et dimanche à 11h. Donc, de toute façon, toutes les infos sur le site du FID, www.fid.org.
Robert Morin, il vit du cinéma maintenant ou,
enfin, oui, il essaye, oui. Quand ça va bien, ça marche. Des fois, ça ne marche pas parce que les subventions ne sont pas là. Enfin, il fait partie d'une série de très grands cinéastes qui ont été refusés au dernier tournage de téléfilm. Il y a eu des grands mouvements de protestation là, ces derniers mois. Il a notamment acheté les droits de 4 soldats, une bande de Hubert Mingarelli. Donc, il s'est entendu avec l'auteur. Il va adapter ça dans un contexte d'Afghanistan. Il change un peu le contexte du roman. Mais il a adoré ce roman-là. Ils ont sympathisé, Robert et Hubert.
J'ai lu aussi un papier où je crois qu'il avait le projet d'une série télé.
Oui, il a tout. Ça fait 20 ans qu'il a ce projet-là. Ça fait 20 ans que ça ne marche pas parce qu'il est trop excentrique. Mais il a encore le projet d'une série télé. Un jour, ça va peut-être marcher. Ouais.
Bon, on arrive bientôt au terme de cette émission. On pourrait dire, Edouard, deux mots sur Vidéochronique, peut-être. Comment va Vidéochronique? Vous êtes, je crois, entre deux endroits, là, les bureaux à la Friche et d'autres locaux qui sont peut-être en train d'être réaménagés dans le panier.
Bah, pour le moment, on est toujours dans nos locaux à la Friche. On n'est pas entre les deux. Et c'est une modification de notre structure qui est un peu complexe à mener et qui prend du temps, parce que c'est vrai que autant une structure associative a l'habitude d'être souple et réactive, autant nos interlocuteurs sont un peu plus lents dans la manière dont ils fonctionnent. Mais enfin, on s'y fait, et puis il faut laisser les choses venir de manière à ce qu'ensuite nous on puisse prendre les choses en main et réaliser ce projet rapidement. Donc c'est effectivement une implantation qui est prévue au 1 Place de Lorette dans le panier.
Néanmoins, ça vous empêche pas de mener des projets. Il n'y a pas longtemps, il y avait une exposition de Dominique Angèle au CIPM, je crois. C'était au CIPM.
C'était une soirée en fait qui était dédiée à Dominique, mais plus sur ses monobandes. Le fait est que Dominique est un sculpteur et qui réalise aussi des installations. Donc ça aurait été un peu trop réducteur, à mon sens, de ne montrer que ses monobandes. Donc il fallait un écho, et effectivement, on l'a trouvé grâce au CIPM, ce qui nous a aussi permis de présenter ses ouvrages, puisqu'il a un travail romanesque assez dense. Donc voilà, puis il y a eu dernièrement effectivement aussi un gros programme réalisé avec Marseille Objectif Danse autour des relations art plastique et danse.
Et des projets pour cet été ou pour la rentrée ?
Non, là on va cet été on va partir en vacances.
Vous aussi ?
Et puis là, on est dans le feed, et on est dans le feed encore pour quelques jours. Mais ensuite, on va se consacrer vraiment sur ce projet d'implantation avec tout ce que ça implique de mise en œuvre, de travaux, de relations avec les architectes, etc. Là, il faut vraiment qu'on se concentre là-dessus parce que ça va bouger.
Merci Edouard Monet, merci Fabrice Montal d'être venu nous parler de ces films et de ce cinéaste. Robert Morin, dont vous pouvez voir une séance par jour donc jusqu'à mardi en juillet. Merci à Camille et à Xavier pour vos excellentes chroniques. Prochain rendez-vous dans la soirée, c'est à 21h, la diffusion d'un documentaire de création sonore Torail de Guillaume Boron. À 22h, là, c'est au feed, ça sera Copy Shop live avec Biomix Sound System sur la terrasse du feed pour faire un peu la fête après les projections. Demain à 9h30, Xavier présentera les points saillants de la journée avec Noémie Baird. À 10h, il y aura un plateau animé par Caroline Galmot avec Pierre Créton et Manon de Bord. Le magazine de demain soir sera animé par Xavier. Il s'intéressera à la place du documentaire dans les médiathèques. Ce qui nous attend à 19h, c'est le Flash Info de Radio France Internationale. Avant, un peu de techno. Merci d'avoir été à l'écoute. Salut.
Salut.
Au revoir.
Salut. Bye.